Les nuits de France Culture.
Au mois de mars 1988, commençaient, au Théâtre des Amandiers de Nanterre, les représentations du Conte d'hiver dans une traduction de Bernard-Marie Coltès, mis en scène par Luc Bondy, avec notamment Bulogier, Roland Amstutz et Michel Piccoli. À cette occasion, dans l'émission Avant-première, Yvonne Taquet diffusait un entretien enregistré un petit mois plus tôt au Théâtre de Nanterre qui réunissait Luc Bondy, Bernard-Marie Coltès et Michel Piccoli pour parler de la pièce. C'était au sortir d'une longue et habituelle journée de répétition et au-delà de la fatigue, les paroles de ces trois-là traduisaient avec une certaine euphorie la joie manifeste d'être réunis par la pièce de Shakespeare. Extrait de l'émission Avant-première, diffusée la première fois le 9 mars 1988 sur France Culture, Yvonne Taquet s'entretenait avec Luc Bondy, Bernard-Marie Coltès et Michel Piccoli à propos du conte d'hiver au Théâtre des Amandiers de Nanterre.
Yvonne Taquet, Marie-Noëlle Barbarin, bonjour. Aujourd'hui, une première à Nanterre, Amandier. C'est le Conte d'hiver, la pièce de William Shakespeare, mise en scène par Luc Bondy dans le texte français de Bernard-Marie Coltès. Alors, c'était la première hier soir. Moi, j'avais rencontré un des comédiens principaux, il s'agit de Michel Piccoli, en compagnie du metteur en scène, Luc Bondy, et de Bernard-Marie Coltès. C'était à la cantine, pourrait-on dire, du Théâtre des Amandiers. Ils sortaient d'une répétition, ils étaient épuisé mais heureux.
Luc Bondy, Michel Piccoli, Bernard-Marie Coltès, nous sommes dans la salle de la cafétéria. Vous sortez d'une répétition, Luc Bondy. Je crois que vous êtes un peu fatigué parce qu'évidemment, le conte d'hiver de Shakespeare n'est pas une petite pièce. C'est une pièce très compliquée qui n'a pas souvent été jouée d'ailleurs, je crois.
Enfin, je ne connais pas l'histoire de combien de fois ça a été joué, mais je pense que ce n'est pas une des pièces de Shakespeare qui est celle qu'on joue le plus.
Pour quelle raison, à votre avis ?
On pense d'abord, quand on connaît les pièces de Shakespeare, il y a certaines pièces qu'on pourrait dire qui sont plus à identification. Dans certaines tragédies, comme Othello, ou comme Hamlet, ou les comédies même, comme La Nuit des Rois. C'est-à-dire c'est des pièces qui sont plus connues parce qu'elles sont d'une certaine manière, même si elles sont complexes, comme toutes les pièces de Shakespeare, elles sont résolues. Alors que le conte d'hiver a une autre forme. Il n'a pas une forme... C'est Cymbeline, le conte d'hiver, ce sont des pièces qui sont les dernières pièces de Shakespeare, et elles ont des formes tout à fait différentes, toute une structure différente. C'est-à-dire que je pense que le problème qui se pose pour beaucoup de gens, c'est que c'est une pièce qui n'a ni une fin tragique, ni un happy end, par exemple, à la fin. On ne peut pas dire ni triste, ni gay. C'est encore autre chose. Cette pièce qui commence comme une tragédie, et au milieu, elle est une espèce de grande ballade. Et puis tout à coup, ça devient encore autre chose, une histoire de résurrection. Donc toutes ces formes font qu'elle est restée toujours un peu une pièce bâtarde, mais toujours une pièce qu'on admire et dont on a craint parce qu'on dit qu'elle est excessivement poétique et qu'on a peur de se dire que ça c'est comme si c'était très difficile, comme si on voulait mettre en scène, d'ailleurs ce qui n'est pas vrai, les sonnets de Shakespeare, mais ce n'est pas le cas.
Oui, enfin, quand même, le thème principal de cette pièce, enfin, comme beaucoup de comédies et dans toutes les tragédies aussi de Shakespeare, c'est quand même l'amour. L'amour et ses complications, non ?
Je pense qu'il y a tellement de thèmes On ne peut jamais dire dans cette pièce que l'amour est un, l'amour, la haine, la jalousie, l'inceste, le temps, la folie, et surtout la relation, par exemple, de la nature et de l'art qui joue un très très grand rôle là-dedans. Il y a beaucoup de thèmes. On ne peut pas centrer cette pièce autour d'un thème. On peut dire que d'un thème naît, par exemple, d'une jalousie. On peut dire que la jalousie naît de l'amour, mais on peut aussi dire que la jalousie existe avant l'amour. Enfin, on ne sait pas. Mais que de ce thème-là s'engendre une série de thèmes. Mais pas seulement l'amour, je crois pas.
L'irrationnel aussi est très important dans cette pièce.
Je sais pas ce
que surnaturel, le surnaturel, Michel Piccoli.
Oui, parce que ça s'appelle le conte d'hiver. Alors, c'est un conte. En même temps, c'est extrêmement charnel, sensuel et en même temps imaginaire. Alors évidemment, c'est irrationnel, si on veut. Mais c'est en même temps très très concret et grâce à Shakespeare et grâce à Coltès aussi, parce qu'on passe d'un délire de l'imaginaire à une chose tout à fait quotidienne et brutale.
Bernard-Marie Coltès, c'est votre première adaptation, je crois,
votre première traduction.
C'est la première fois que vous écrivez à partir du texte de quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est Shakespeare, c'est pas mal, mais...
Oui, je l'ai choisi. Je l'aurais pas fait pour n'importe quel auteur, mais bien sûr.
Vous qui êtes un auteur, qui êtes écrivain, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on aborde un texte comme celui-ci ?
J'ai pas tellement envie de vous parler des difficultés, parce qu'elles sont celles de n'importe quelle traduction, donc les contresens, comprendre le sens et tout ça. C'est plutôt le plaisir de découvrir que Shakespeare parle une langue limpide, mais vraiment limpide. C'est-à-dire que c'est pas du tout une langue compliquée, maniérée, les métaphores sont très belles, très simples. Les situations sont très compliquées. Alors en traduisant, il ne faut pas essayer d'avoir la vision de la pièce en entier, bah, sinon on se perd immédiatement. Il faut traduire moment par moment. Et après, le courant vient tout seul, on n'a rien à faire.
Lupondi, nous, en France, on vous connaît, on sait que vous étiez à Berlin, à Schaubühne, pendant quelques années, mais on vous connaît surtout ici par deux réalisations qui étaient Terre étrangère, d'Arthur Schnitzler, dans lequel d'ailleurs jouaient Bulogier et Michel Piccoli, et aussi par un Mozart, un Così fan tutte, qui étaient tous les deux un moment de bonheur. Et je trouve que la notion d'amour, de bonheur, vous colle bien à la peau, et j'imagine que cette pièce rentre tout à fait dans ce cadre-là, parce que c'est aussi une pièce sur la jeunesse.
Vous savez, moi, j'ai beaucoup de difficultés à toujours définir. Définir par des mots ce qui me colle. Moi, le plaisir, outre cette pièce, c'est le plaisir de retrouver justement Michel Piccoli, Bulogier, la rencontre avec Coltès, avec des acteurs, de retrouver des acteurs avec lesquels j'ai une terrible envie sur cette pièce. Et mon amour, alors, il se traduit par le fait que je sois avec ces gens pendant 3 mois. Voilà comment je peux dire. Si ça pouvait se voir dans la pièce, parce que le reste, comment j'aborde une pièce, je n'arrive pas à le dire parce que je le fais. Et je suis quelqu'un qui n'arrive pas si bien à dire ce que je fais. Je peux mieux le dire aux acteurs.
Vous qui êtes acteur et qui jouez pour la deuxième fois avec Luc Bondy, comment est-ce qu'il vous fait aimer cette pièce ? Parce que tout de même, il a fait le choix de cette pièce de Shakespeare. C'est un choix bien déterminé, Michel Piccoli.
Oui, mais il y a quelque chose aussi dans cette pièce, et Luc Bondy est assez comme ça dans la vie. Il est très ludique, et la pièce est ludique. Shakespeare, avec cette pièce, nous permet une liberté d'invention, de rire, de larmes, de drôlerie. Il nous fait partir dans des sphères sans fin, comprenez ? Alors, comme Bondy est un farceur, et que Shakespeare est un farceur, et que Coltès n'est pas loin d'en être un, et que moi, plus ça va, plus j'aime en être un, on est un peu euphorique. Alors, on ne devrait pas dire ça à un mois de jouer une pièce. Ça serait de la subversion ou un contresens, ou ça serait d'une prétention folle. Mais pour l'instant, nous baignons dans une euphorie, dans un travail épuisant de 10 heures par jour. mais dans une euphorie, voilà.
Luc Bondy parlait donc de son plaisir de la rencontre avec vous, Bernard-Marie Coltès. Alors je voudrais savoir quand même quelle est la collaboration entre un auteur de théâtre tel que vous, qui avez vraiment une pratique de théâtre depuis quelques années avec Patrice Giraud, et Luc Bondy. Quelle a été cette collaboration, au-delà du papier?
Bon, lui m'a proposé de traduire ça. J'ai dit oui tout de suite parce que c'était Shakespeare et parce que j'avais vu quand même les deux spectacles à Paris. Donc vraiment, il n'y avait aucun problème. J'ai dit oui avant de lire la pièce d'ailleurs, hein. Je ne la connaissais pas du tout. Et puis ensuite, on a eu un travail un peu successif. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé très fort tout seul pendant 3 mois. Il a été très bien d'ailleurs. Il ne m'a pas du tout embêté. Il m'a jamais téléphoné pour me dire alors, ça avance. C'était très très bien. Et puis après, bon, il a lu le texte, et ce qu'il y a de vraiment formidable, c'est que les répétitions se passent avant l'édition, par exemple, ou des choses comme ça, parce que au fur et à mesure du travail, il se rendait compte de tas de choses imparfaites, même de 2-3 contresens, des choses qu'on n'a plus le droit de faire sur Shakespeare, qui m'ont permis de reprendre le texte. Et chaque fois, je trouvais la solution en revenant à l'anglais le plus strict, enfin, au texte de Shakespeare le plus près possible.
Michel Piccoli, quel rôle jouez-vous dans cette pièce, Le Comte d'Hiver?
C'est l'histoire, disons, de deux rois, on pourrait dire. Il y a deux rois. Alors, il y a le roi de Sicile et le roi de Bohème. Moi, je joue le roi de Sicile, qui s'appelle Léontès, et Bernard Ballet joue le roi de Bohème, qui s'appelle Polyxène. Alors, mon personnage est un monsieur qui reçoit ce roi, et qui s'invente et qui peut-être même provoque inconsciemment, sûrement, volontairement. Comme disait Luc, il avait une maladie de la jalousie avant d'avoir l'amour fou pour sa reine. Et voilà, il déclenche une paranoïa de la jalousie et ça va jusqu'à des jugements et de juger, de tuer. Grâce à cause de cela, il renie une fille, il abandonne une fille qui soi-disant n'est pas de lui. Son fils meurt. Finalement, on l'oublie, ce roi Léontès. 16 ans passent et on voit Polyxène et tous ces gens qui sont partis en expédition rechercher cette fille abandonnée. Alors là, c'est toute une chose bucolique. Et après, on revient avec ce personnage Léontès dans le péché pardonné, la rédemption et une nouvelle folie, mais une folie euphorique. Il est heureux d'avoir été jusqu'au bout de la honte, voilà.
Voilà, c'était donc une répétition, ça a été pris il y a environ 3 semaines, 1 mois. Le Comte d'Hiver a été représenté pour la première fois hier soir au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et j'ai entendu dire que Michel Piccoli était absolument extraordinaire, ce qui ne nous étonne pas.
Vous venez d'entendre un extrait de l'émission Avant-première, diffusée la première fois le 9 mars 1988 sur France Culture. Yvonne Taquet s'entretenait avec Luc Bondy, Bernard-Marie Coltès et Michel Piccoli à propos du Comte d'Hiver au Théâtre des Amandiers de Nanterre.